L'écran radiophonique vous présente un scénario original de Jean-Pierre Jumière, Les miroirs brisés. Mise en scène, production, Jean-Pierre Jumière. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur. Non pas costume roi, je voulais dire costume rose et chemise verte. Félicie demande, qu'est-ce que c'est que ce perroquet? Armand lui dit, c'est le meilleur organisateur de soirée qui soit. C'est une soirée pour les fous. Mais tout s'organise pour le mieux. Florence est contente, mais elle cache son excitation de port des médicaments. Le médecin qui la voit ne dit rien, ne voit rien de changer chez elle. Il est vrai, c'est que chaque fois qu'il vient, on lui donne un chèque. Voilà, tout est prêt, tout est illuminé, tout est en place. Ils se sont habillés et attendent leurs invités dans leur chambre. Ils devraient se montrer que lorsque ils sont arrivés, seront arrivés. Florence se souvient de la soirée du serviteur, ou du serveur plutôt, qu'il a appelé Flore, et se dit que peut-être il sera là ce soir. Les invités arrivent, on entend les voitures, les portières qui s'ouvrent, les cris, les rires, la foule. L'orchestre commence à jouer discrètement. On a frappé à la porte de la chambre de Florence. Entrez. C'est son mari qui lui dit. Ils sont là. Il faut commencer à descendre. Viens, je te suis. Elle prend sa pochette. Et lui dit. Tu es ravissante. Merci. Elle est dans sa robe longue. Blanche, avec des fils argentés et moulantes. Edmond a toujours sa femme à son bras. Les invités regardent sa femme et dit « Qu'elle est délicieuse !» Cela ne m'étonne pas qu'il la cache. Tous sont surpris par la beauté de Florence. Un vieil homme à cheveux blancs fait signe à Edmond. Il dit à sa femme « Je dois aller voir ce monsieur. » Et il demande « Je t'accompagne. » Non, c'est un vieux excentrique très riche, mais qui a des actions chez nous. Très misogyne. Et je crois qu'il déteste les femmes. Et lui dit, peut-être un peu. Il lui dit, peut-être. Et il la quitte. Et se retrouve seule au milieu d'inconnus. Essaie de voir si elle ne trouve pas la grand-mère ou son beau-père. Mais non, rien. Soupire et décide. C'est de se mettre dans un coin. Plus d'une fois, qu'elle est dans une soirée, elle s'y ennuie à mourir. Un homme grand, mince, cheveux châtains, à 30 ans, va à elle. Il lui demande, salut charmante jeune fille. Bonjour, vous êtes seule? Oui, hélas, moi aussi. mais il n'y a rien de bien intéressant, à part vous, bien sûr. Elle lui dit merci et lui demande, vous êtes? Elle lui répond, la maîtresse de maison, la femme du fils de Toussaint. Il lui dit, excusez-moi, je ne vous connaissais pas. Mais vous êtes si jeune. Elle lui dit, merci. Vous ne voulez pas que j'ai dit ces choses-là? Qu'il n'y avait rien d'intéressant. Elle lui dit, suis comme vous aussi. Je trouve que ce n'est pas bien intéressant. C'est pas moi qui ai invité tous ces gens. C'est mon beau-père. Vous sortez souvent? Non, peu. Et pour une fois que je suis dans une soirée, il n'y a rien d'intéressant et je m'ennuie à mourir. Vous devriez sortir. Vous êtes si belle. Merci. Mais je suis mariée, attention. Vous aimez votre mari? Elle lui dit furieuse, mais ça ne vous regarde pas. Il lui dit, je suis un goujat. Elle lui dit, vous ne savez pas très bien vous tenir en public. Il lui dit, peut-être bien, mais pour me faire pardonner, je peux vous inviter à danser. Je ne sais pas si je dois. Peut-être pour que je puisse me faire pardonner. Elle lui dit, bon, d'accord. Et il l'emmène danser. Il lui dit, vous dansez merveilleusement bien. Et lui dit, je ne sais même pas. Il lui dit, vous ne savez pas? Il y a beaucoup de choses dont je ne me souviens plus. J'ai perdu la mémoire. Il lui dit, je ne vous crois pas. Il lui dit, vous avez raison. Après avoir dansé, une femme s'approche d'eux. C'est une femme grande, grosse, blonde, dans les 60 ans. Elle dit à Florence, c'est vous la femme d'Edmond? Elle lui dit, oui, je vous laisse. Elle dit tout bas à Florence, c'est pas mon genre, c'est Breluche. Elle a envie de rire et dit, bien, au revoir madame, mademoiselle Lapin. Et il s'éloigne. Confus, Florence reste avec mademoiselle Lapin. La vieille demande, quel est cet homme étrange? Florence lui dit, un industriel, la vieille dit. Il a l'air bien. Vous êtes ma fille, vous êtes très bien. Ça me fait étrange d'apprendre qu'Edmond est marié. J'aurais tout de suite pensé que ça aurait été une vieille héritière. Et là, je vois que vous êtes délicieusement jeune. Florence lui dit, et héritière aussi. Julien lui dit, eh bien, il en a de la chance. Où vous êtes? Rose Béret Latin. C'est moi les confitures et la lessive. Florence lui dit, enchanté. Rose lui dit, si vous voulez, nous pouvons nous voir de temps en temps. Je fais des après-midi, thé et bridge. Laurence lui dit, je sors très peu. L'autre lui dit, comme c'est dommage. Kelly, qui ne veut pas que vous sortiez. Oui, il est jaloux, si vous voulez, comme vous en avez la chance. Moi, ça fait 30 ans qu'il ne l'est plus. D'ailleurs, nous n'avons plus que des rapports d'affaires. Laurence lui dit. Mon mari, en quelque sorte, c'est pareil. Je signe beaucoup de chèques. Rose lui dit, ça, il ne faut pas. Florence lui dit, oui, mais on n'a rien d'autre à faire.
Demande à Jason de venir.
Rose,
va donc le voir.
C'est mon mari. Il s'impatiente. Je vais me presser. Il veut me présenter un de ses amis qui rentre dans nos affaires. Alors à bientôt, ma chérie. Vous êtes délicieuse. Merci. Elle s'éloigne. Florence cherche son mari ou les autres, mais elle ne les trouve pas. Il y a tellement de monde. Va au buffet prendre du champagne. Il y a bien le serveur pour voir s'il n'est pas là. Mais ce n'est pas lui.
Quelque chose à dire, il paraît, Adam.
Je suis stupide. C'est pas digne de moi de chercher un serveur parce qu'il est joli garçon. Et là, appelé Flore. Et puis
c'est
Flore, Florence, ça se ressemble. Ça se ressemble beaucoup. Et ça ne veut rien dire. Et la soirée se poursuit. La soirée se continue. Elle commence à être fatiguée. Elle ne voit pas toujours sa famille. Tout à coup, elle voit arriver à elle grand-mère. Elle lui dit, ton mari a eu un malaise. On l'a porté à sa chambre. Que lui est-il arrivé? La vieille lui dit, des essoufflements. Il faut que tu y ailles le voir. Oui, bien sûr. Elle se dit que c'est sa maladie. Que ça s'est peut-être aggravé. Pauvre Edmond. Vite, elle va à la chambre de son mari. Suivie de la vieille. Elle a du remords en se disant qu'elle s'est pas beaucoup occupée de lui. Frappe à la porte de la chambre et entre. Son mari est allongé. Son père est près de lui.
Oh, vous voilà enfin. Il n'est pas bien du tout.
Et s'approche de son mari allongé qui a des difficultés à respirer. Se penche, très ému, et lui demande. Tu n'es pas bien, la vieille dit.
Tu vous le voyez bien. Qui n'est pas bien. Il ne peut vous répondre.
Vous avez prévenu un médecin,
Bernard. Oui. Bien, maintenant que vous êtes là, je vais pouvoir retrouver mes invités. Surtout ne rien dire de cet incident. Cela risquerait d'être ennuyeux pour nos affaires s'ils apprenaient que mon fils est malade.
Et il les quitte. Félicie lui dit,
il va falloir s'occuper de lui maintenant. Mais moi je ne peux pas. J'ai la maison à m'occuper.
Bien sûr.
La vieille soupire et dit,
pauvre Edmond. Tu t'en vas comme ça, à la fleur de l'âge. As-tu eu le temps de te mettre enceinte, au moins?
Florence est furieuse et lui dit, je vous en prie, on ne parle pas comme ça, devant un malade.
La vieille dit, pourquoi? Autant qu'il le sache.
C'est monstrueux.
C'est pas moi qui l'ai rendu malade, non. Vous n'allez pas m'accuser de ça. Ça, c'est le toupet.
Florence lui dit, vous auriez mieux de sortir.
Et lui dit, c'est ça, je sors. Tu as la responsabilité de sa santé. Et nous verrons bien.
La vieille sort. Florence se penche vers son mari et lui dit, ne crois pas ce qu'elle t'a dit. Tu n'es qu'un peu souffrant. Tu vas guérir, mon petit. Quelle horrible femme. On frappe à la porte. Elle dit entrer. Entre le docteur. Docteur Morel. Soupire et dit encore. Elle se dit encore lui. Docteur dit.
Bonjour, petit. Alors, les amours, ça va?
Oui, docteur. Il y a des difficultés à respirer.
Docteur se penche. Bonjour, Edmond. Ton état a dû s'aggraver. Je vais voir ça.
Edmond est en sueur. Elle a les yeux rouges. Ses membres semblent inertes. Le docteur le regarde, lui prend le pouls, lui coupe le corps et dit,
Je vais te faire une piqûre. Ça va t'aider à te détendre. Une fois que la piqûre est faite, il lui dit. Bon, ce n'est qu'une crise. Mais je crains. C'est que il faudra te mettre sous l'oxygène. Ça te permettra de mieux respirer. Bon, la piqûre va te faire du bien. Laissons-le se reposer. Allez, Edmond, courage. Venez, madame, sortons. Il faut qu'il se repose. Elle demande, est-ce qu'il respirera normalement? Le temps lui dit. Il va aller mieux pendant quelque temps. Venez, sortons de la chambre. Et ils sortent de la chambre. Ils retrouvent la grand-mère et Armand. Armand dit au docteur,
alors, dans mon bureau, nous pourrons parler tranquillement.
Et ils y vont. La soirée se continue. Une fois dans le bureau, il demande,
alors, docteur,
il serait préférable qu'il aille à la clinique. J'entendais très bien. Maman réfléchit.
Ça ne guérira pas. Il vaut mieux qu'il reste chez nous à cause des potins.
Médecin lui dit. Mais hospitalisé, il souffrira moins.
Qui peut le dire?
Docteur demande.
Qui s'occupera de lui?
Maman dit.
Nous sommes là. Le voir rapidement, comme vous le faites pour ma femme, pour sa femme. Deux consultations, pour ainsi dire.
Florence est outrée. Elle leur dit, j'ai moi aussi mon mot à dire. Tout ça regarde. Elle dit, je suis sa femme. Et ici, il dit,
vous n'êtes pas bien, mon petit.
Elle baisse la tête et ne dit rien. Elle se dit, on dirait qu'ils font tout pour qu'Edmond n'ait pas la moindre chance de guérir. Elle a envie d'hurler. La vieille lui dit,
va voir ton mari, il n'y a pas besoin de quelque chose.
Maman lui dit,
quoique dans son état où il est, est-ce qu'il a besoin de quelque chose?
Laurence va à la chambre de son mari. S'est apaisée et dehors. Elle va prendre du sel et s'asseoir près du lit. Elle caresse ses cheveux. La soirée se termine. Les invités s'en vont. Elle passe toute la nuit, ou plutôt le reste de la nuit, près de lui. Elle aussi s'est un peu assoupie, se réveille, il fait grand jour, a froid, se sent courbaturé, son mari dort encore. On frappe à la porte. Entrez. Entre la vieille. La vieille s'approche du lit et demande
« Comment va-t-il ? »
Elle lui dit « Il dort. »
« Bien, le médecin viendra nous expliquer comment on le soigne. »
Elle regarde bien Florence et lui dit
« Ça vous ira très bien d'être garde-malade. Vous avez l'air plus sérieuse. »
Florence est furieuse « Mais c'est pas un jeu ?» La vieille hausse les épaules lui dit
« Nous jouerons tous un jeu, ma fille. Nous serons tous des personnages dans la vie. Qui se modifie au fil du temps. J'ai été une jeune fille, une femme, et maintenant une vieille acariate. C'est mon dernier rôle. Florence lui dit, peut-être pas le meilleur. Vous, vous trouvez, il est plus intéressant que les autres, parce que je suis franche et je dis haut ce que pensent les autres. Tout bas. Florence lui dit, moi, non. La vieille lui dit, vous, ce n'est pas la même chose, vous êtes malade. On ne fait pas attention à ce que dit une personne qui a perdu la mémoire. Vous pouvez aller à la police et dire que vous avez vu un crime. Ils ne vous croiront même pas. Bien, le petit déjeuner est prêt. Vous pouvez aller le prendre à la salle à manger. Elle demande, et Edmond ? La vieille lui dit, qu'il se repose. Et elle sort de la pièce. Florence regarde une dernière fois son mari, puis quitte la chambre pour aller dans sa chambre, se changer et prendre le petit déjeuner. Pendant ce temps, le fils et la mère sont au salon. Ils sont assis l'un en face de l'autre, dans des fauteuils. Il lui dit,
il ne va pas vivre bien longtemps. Et nous ferons tout pour qu'il s'en aille le plus vite possible.
Elle lui dit, oui, pour éviter qu'il ne souffre trop, bien entendu.
Oui, bien sûr. Les choses vont plus vite que je ne le pensais. Elle va hériter, et là, nous d'elle.
Mais elle n'est pas malade, elle.
Une personne qui perd la mémoire peut lui arriver des tas de choses. Un accident, quelque chose. Et puis, nous avons le bon docteur Morel. Il signera tous les papiers que nous lui demanderons. Il a tellement besoin d'argent, ce brave docteur. Il veut ouvrir une clinique. Nous serons les donateurs de cette clinique et le bon docteur, pour nous remercier, donnera notre nom à la clinique. Nous dirons à tous que nous avons donné de l'argent au docteur pour le remercier d'avoir tant aidé notre belle fille. Et cette clinique servira à soigner les personnes qui perdent la mémoire, etc.
Tu es formidable, mais comment appelle-t-on le père qui tue leur fils ?
Il dit vexé. Je ne sais pas, mais les fils qui tuent leur mère. Et ceux qui tuent leur père, c'est parricide, non?
Elle devient toute rouge.
Il lui dit, je plaisantais.
Tu ne plaisantes jamais. Ce serait bien la première fois.
Il faut un commencement à tout.
On frappe à la porte. Elle dit, entrez! Entre Florence, la vieille dit,
ah, vous voilà enfin! Nous pouvons nous mettre à table pour le petit déjeuner. Je commence à avoir faim, moi!
Ils se laissent tous pour se mettre à table. Armand demande,
comment va-t-il ce matin?
Florence lui dit, il dort.
C'est bien, le médecin viendra
nous voir pour nous expliquer ce qu'il faut faire.
Dans la matinée, le médecin vient voir Florence et ausculter son mari qui est réveillé. Il lui donne une piqûre. Il a dit qu'il fallait lui donner de la bouillie. Il a expliqué ce qu'elle devait faire. Les médicaments à prendre. L'infirmière viendra le piquer tous les jours.
Il faudra qu'elle aide à manger et à boire. Le changer, laver, bien entendu, avec l'aide de la bonne. Il a aussi ausculté Florence et lui a dit qu'elle devait, elle aussi, se reposer et prendre des médicaments. Et le médecin l'a quittée. Avant d'aller la voir, il a eu une grande conversation avec Armand. Il en est ressorti satisfait. Et la vie s'organise pour Florence autour de la maladie de son mari. Elle va souvent le voir dans la journée, lui donne ses médicaments, l'aide à se nourrir. Comme il est très essoufflé, il a des difficultés à mastiquer. On lui donne du liquide avec une cuillère ou une paille. L'infirmière vient tous les matins lui faire une piqûre. Florence le déshabille pour le changer et le lave. Il la regarde avec des yeux pleins d'amour. S'exprime difficilement en le déshabillant et lui dit « Je crée beaucoup d'ennuis. » Il lui dit « Non, c'est normal.
Tu es toi-même fatigué. »
Ce n'est rien. Ça ne te gêne pas de me changer, laver? Non. Et puis je suis ta femme. Nous avons uni notre corps pour le plaisir. Alors, c'est aussi pour les peines. Et puis tu vas guérir?
Je sais bien que non.
Elle lui dit, dis pas de bêtises.
Je sais. Ça ne m'ennuie pas. Je ne souhaite qu'une chose, c'est que ça finisse vite.
Elle le regarde, effrayée. Tu es fou?
Non, c'est pour toi. Je ne veux pas que t'achètes ta vie trop longtemps.
Tu me gâches rien?
Si
tu ne guéris pas, la vie, tu me la gâcheras.
Je te l'ai gâché déjà volontairement.
Elle lui dit, tu dis n'importe quoi.
Non. J'ai un aveu à te faire.
Elle lui dit, je ne veux rien entendre. C'est des lucubrations.
Je t'aime. Moi aussi. Mais j'ai mal agi vis-à-vis de toi.
Arrête, ou je vais m'en aller.
Non, reste.
Il lui prend le bras. Elle pourrait se défaire de son emprise. Il est tellement faible.
mais par dignité pour lui, pour ne pas aller outre sa volonté, elle reste. Mais elle voudrait fuir. Elle sait que la vérité n'est pas toujours bonne à dire. C'est comme une bonne action qui peut devenir mauvaise, même plus mauvaise qu'une bonne action, qu'une mauvaise action. Elle lui dit, quoi que tu vas me dire, je continuerai à venir et à t'aimer.
J'ai mal agi, très mal agi. Je savais que j'étais très malade, même perdu. On va te connaître. Et j'étais courtisé. Je sens te dire mon état. J'ai tout fait pour que tu acceptes que tu deviennes ma femme en te cachant ma maladie.
Elle lui dit, ça n'a pas d'importance.
Mon père m'y a aidé. Et je l'ai aidé à ses projets. Il devait, disons, c'est que tu entres dans notre famille pour se venger de ton père qui l'a ruiné il y a 25 ans de ça. Elle est toute rouge, même furieuse, et se dit qu'il est malade et qu'elle doit pardonner.
Elle lui dit, je me moque de ça. Ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est que tu guérisses. Après, nous verrons. Ne te pose pas de questions. Nous vivrons que tous les deux et ailleurs.
Il lui dit, je n'ai pas d'argent.
Moi, si, mon père, j'irai voir mon notaire.
Il lui dit, il est suffisamment fort pour arriver à nous séparer. Est-ce que tu seras suffisamment forte pour lutter contre lui?
Oui, je suis forte. Plus forte que tu ne penses. Ne pense à rien. Je vais bien te soigner.
Elle lui donne un baiser sur le front.
Oui, elle lui donne un baiser sur le front.
Une fois qu'elle est finie de déshabiller, elle le mène à la salle de bain, contiguë à la chambre.
Là, surprise, effrayée,
elle voit sa belle-mère. Elle la regarde d'un drôle d'air. Florence se demande si elle n'a pas entendu ce qu'il disait. Ils ont parlé bas, mais la porte de la salle de bain est proche du lit.
Florence demande, comment avez-vous fait pour entrer? Et puis, on s'annonce par vous?
La vieille dit, je suis entré par l'autre porte qui donne dans le couloir. Je veux vous aider, ma fille.
Parce que, pourquoi vous auriez pu me prévenir?
Je n'ai pas voulu troubler votre conversation, ma fille. Allons, faisons prendre un bain à ce grand garçon avant qu'il ne prenne froid.
et les deux femmes nous mettent dans la baignoire Edmond pour lui faire prendre son bain. Florence dit à la vieille, « La bonne Orsi aurait pu m'aider. »
Elle n'est pas payée pour ça, surtout pas pour ça, ma fille.
Edmond est revenu dans sa chambre pour qu'il se couche, pour qu'on le couche. Fatigué et hébété, Florence embrasse son mari, la vieille aussi, et elle le quitte. Florence dit à Edmond,
elle nous a peut-être entendu. Edmond lui dit, ça n'a pas d'importance. Elle est avec mon père.
Florence aimerait fuir, tout quitter, mais il y a Edmond, elle ne peut les laisser, et puis ce ne serait pas bien, mais elle se sent lasse, très lasse. La nuit, elle fait des rêves horribles. Elle se retrouve en chemise de nuit dans le parc à courir comme une folle. Le matin, on lui dit qu'elle a... Elle se dit qu'elle a rêvé. Mais... Mais elle voit que sa chemise de nuit est mouillée. Taché, sale. Petit déjeuner, on lui dit qu'elle a fait du somnambulisme. Félicie lui dit, faut faire attention, ma fille, c'est dangereux. Tu risques de faire n'importe quoi. Elle dit à son fils, est-ce bien raisonnable qu'elle s'occupe d'Edmond. Maman lui dit, nous verrons bien, j'ai d'autres soucis en tête. Il faudrait peut-être la fermer à clé dans sa chambre la nuit. Florence lui dit, surtout pas. La vieille lui dit, elle pourrait sauter par la fenêtre.
Ce serait très ennuyeux.
Florence, avant de s'endormir, a peur et se demande ce qu'elle va faire. Elle est réveillée une fois en sueur dans le couloir. Félicie est près d'elle. Elle lui demande :
qu'allez-vous faire ?
Quoi ? Rien.
Pourquoi ce couteau ?
Elle voit qu'elle tient un couteau.
Où alliez-vous avec ce couteau ?
Je ne sais pas.
Vous êtes dangereuse, ma fille. Donnez-moi le couteau et allez vous coucher.
Et elle retourne se coucher. Elle se demande si elle n'est pas devenue folle. Le lendemain, le docteur va la voir et lui dit :
alors, il paraît que vous êtes somnambule.
Je crois que oui.
Je vais vous donner des médicaments pour vous détendre un peu.
Elle lui dit : oui.
Pendant une seconde, elle a un éclair de lucidité et dit :
non, c'est mieux pas.
Il demande surpris :
pourquoi, ma petite ?
Parce que je veux rester lucide. Je veux pouvoir m'occuper de mon mari comme il faut.
Mais vous pourrez, je vous assure. Vous serez plus entendu. Rien de plus.
Alors, elle accepte.
Ça la détend plus. Elle lui semble être dans le cirage de grippe que dans un rêve. Ses gestes sont longs. L'impression que la vieille la regarde d'un drôle d'air. Elle a des difficultés à se concentrer.
La vieille dit : faites attention, vous allez renverser l'assiette.
Elle a le vertige en descendant les escaliers. Mais la nuit, elle continue à faire des cauchemars. Elle se réveillait en sueur. Elle rêve qu'elle est dans les rues désertes. La nuit, elle court. Elle a peur qu'on la rattrape. Et tout d'un coup, elle se met à crier. Comme une personne que l'on viole. Une nuit, elle s'est réveillée dans la chambre de son mari, devant le lit. Lui dormait. Le combattant, effrayée, elle se demande pourquoi elle est là et pourquoi elle est venue dans la chambre de son mari comme ça. Inquiète, elle retourne dans sa chambre. Elle demande si elle ne fait pas du somnambulisme comme une folle. Elle se dit que les médicaments ne servent à rien à part l'abrutir. Elle est obligée de les prendre parce que la vieille les fait prendre.
Se réveille en sueur sur la terrasse. Autour d'elle se trouve son beau-père, sa belle-mère et les domestiques qui sont en robe de chambre. La vieille lui dit « Vous avez vu ce que vous avez fait ?»
Elle ne comprend pas. La vieille lui montre à terre un chat étendu mort dans une mare de sang.
« Vous l'avez tué à coups de hache !»
Elle crie
« Non !»« Regardez-vous !»
Elle voit la chemise de nuit tachée de sang. Une tache assez pliée, pleine de sang aussi. Elle demande « Mais pourquoi aurais-je fait ça ?»«
Parce que l'animal vous empêchait de dormir. Il miaulait, comme si c'était de sa faute. Vous êtes dangereuse, ma pauvre petite. Allez dans votre chambre, nettoyez-vous. Allez vous coucher. »
C'est ce qu'elle fait.
Elle se demande si elle n'est pas devenue folle. Le lendemain, le médecin va la voir. Elle est dans son lit.
Elle lui dit « Je suis devenue folle. Mais non, tout simplement somnambule. Que faire ?»«
De rien. Attendre que ça passe et prendre mes comprimés. »
Elle lui dit « Je crois que je ferais mieux, c'est de ne plus m'occuper de mon mari.
Bien au contraire, il faut continuer. C'est un peu votre guérison, avoir des responsabilités. »
Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Les miroirs brisés. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.